La question qu'on peut se poser, c'est si le Canadien est en série, est-ce que ça a une valeur commerciale, ça, même si on est dans la ville bulle à Toronto? On en parle avec Ray Lalonde qui est avec nous. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Est-ce que ça a un impact commercial que le Canadien soit en série?
C'est très positif pour eux autres. De toute façon, quand tu es dans une situation comme les Canadiens depuis 4-5 ans où ça a été plus ou moins bien, il faut que tu t'accroches à tout, il faut que tu bâtisses de l'espoir, il faut que tu le communiques à tes partisans. C'est contagieux. C'est pas le temps de parler de contagion, mais ça oui. L'est là, pour la fièvre des séries pour les Canadiens. C'est sûr que c'est différent parce qu'ils sont pas en ville. Pis on n'a pas un peu cette folie là, d'aller assister à des matchs ou de voir les gens dans le centre-ville. C'est différent. Mais d'un autre côté, c'est la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Et puis, ils ont bien performé en première ronde qualificative. Puis là, ils sont rendus officiellement dans les séries contre une équipe qui est largement favorite pour gagner. Une des bonnes équipes de la Ligue nationale de hockey. Mais quand t'as Carey Price qui joue du hockey comme il est capable, tout est permis. Ça me rappelle Yaroslav Halak en 2010, qui jouait au-dessus de sa tête, là, qui était vraiment extraordinaire. Puis on a sorti deux gros canons consécutivement à Washington et Pittsburgh. Puis on a poursuivi la route. Alors, tu sais, ça peut arriver encore une fois. Je serais pas surpris de voir les Canadiens arracher un match, deux matchs, peut-être trois matchs aux Flyers. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais ils sont capables de le faire en restant proches. Puis ce que ça veut dire, c'est que tu donnes de l'espoir à tes partisans pour l'an prochain. Jérémy, c'est déjà de l'inconnu. On ne sait pas quand on commence. On ne sait pas quand seront les matchs. On ne sait même pas si les spectateurs vont être admis au match. Mais les Canadiens ont facturé leur billet de saison pour l'an prochain. Il y a une sorte de planification qui a lieu. Ça donne la chance aux partisans de croire en quelque chose. Et c'est très positif. Imagine là, te faire sortir en trois par les Pingouins. T'sais, les gens se seraient dit, ben là, pourquoi qu'on est même allé là? On n'avait pas d'affaires là. Tandis que là, ils ont donné raison à la méthode de Gary Bettman d'inclure 24 équipes.
Est-ce que ce qui se passe présentement et à Toronto et à Edmonton, puis là, je te mets sur le spot un peu, là, mais je me posais la question parce qu'on sait que la Ligue nationale a mis beaucoup d'emphase sur les ventes en ligne. On a mis une infrastructure qui fait en sorte que tu es capable de commander plusieurs produits de la Ligue nationale. Je me demande, est-ce que ce qu'on voit présentement, les séries de fin de saison dans des villes bulles comme ça, est-ce que ça répond bien, point de vue partisan, pour les achats en ligne? Est-ce qu'on sent une effervescence du produit de la Ligue nationale de hockey?
On le sent au niveau des audiences télé aux États-Unis qui sont raisonnables. Tu sais, c'est pas là, des records de tous les temps, mais on est en ronde qualificative, puis là, le début de la série éliminatoire, avec un match époustouflant, là, Tampa contre Columbus. Mais Jérémy, je pense pas que ça va se traduire à court terme avec des grosses ventes, de la grosse folie, comme on voit avec le Kraken de Seattle. Pourquoi? Parce que il y a forcément un éloignement. Il y a forcément une énorme distance quand ton produit est dans une bulle. Ça fait partie, c'est pas une conséquence, c'est une chose qu'on devait accepter à partir du moment qu'on jouait dans une seule ville sans spectateurs et avec un nombre limité là, tu sais, de journalistes sur place pour nous rapporter tout ça. On doit accepter ça. L'important, c'est que le produit télévisuel est à la hauteur des attentes, que l'analyse à la radio, à la télé, au niveau des entraques, au niveau de tous les diffuseurs, soit de haute qualité. Et puis qu'on ait accès au contenu provenant des équipes qui créent du contenu. Et le spectacle, avec la technologie, avec les matchs, avec ce qu'on voit devant nos yeux, je répète encore une fois, ils ont très bien réussi. Honnêtement, il faut être fier que ce produit-là... Moi, là, je suis vraiment emballé par... Je regarde beaucoup de matchs. Et je te le dis, là, je reste rivé là, parce que les matchs sont bons, mais la production est excellente.
La production est bonne, les angles de caméra sont différents, oui. Puis ça donne un bon produit, ça c'est sûr. Maintenant, restons dans le côté marketing de la Ligue nationale. Hier, on a vu Alexis Lafrenière avoir la possibilité d'être repêché par les Rangers de New York. On le sait, c'est un marché gigantesque pour la Ligue nationale. On parle beaucoup de Lafrenière. Est-ce que ça, d'un point de vue marketing, c'est bon et pour les Rangers et pour Lafrenière?
Jérémy, le débat, c'est un débat perpétuel. C'est certain que Lafrenière aurait pu se retrouver, je te donne trois exemples, là, Nashville, Floride, puis Minnesota. Minnesota, c'est un marché de hockey, mais il manque de stars, puis il manque de réussite du côté du Wild. Ça demeure une équipe très populaire. Mais imagine ce qu'il aurait pu faire, lui, dans trois équipes comme ça. Il y en a qui vont dire, ben les Panthers attirent 10 000 personnes par match, ça n'aurait rien changé, il n'y en aurait pas plus. Puis c'est vrai, ça. Mais d'un autre côté, comment veux-tu qu'il devienne un joueur pertinent si tu n'as pas des joueurs vedettes sur lesquels tu peux t'accrocher? Alors, ça, c'est un point de vue qui n'est pas négligeable. De l'autre côté, s'ils se retrouvent avec les Rangers sont déjà une équipe favorite par NBC Sports pour la diffusion aux États-Unis. Moi, je pense toujours à la croissance du hockey. T'sais, que ce soit l'olympisme dans le monde puis la participation des joueurs de la Ligue nationale, mais que ce soit aussi la diffusion à NBC Sports. Puis la Ligue nationale prend ça au sérieux, Jérémy, parce que dans un an, ils renégocient là, mais dans un an, ils doivent signer une nouvelle entente avec NBC. Puis la Ligue nationale souhaite doubler la mise de 200 millions par année US à 400 millions en droits de télé. C'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre particulièrement ambitieux pendant une pandémie. Tu comprends? Mm-hmm. Alors, c'est certain que d'avoir Alexis Lafrenière avec les Rangers de New York, une équipe originale au Madison Square Garden de New York, devant les bureaux de la Ligue et ceux de NBC Sports, c'est certain que ça a un élément sexy puis séduisant. Et ça, c'est aussi très bon pour le hockey parce que tu sais que les Rangers vont être diffusés à NBC encore plus souvent l'an prochain. Alors, c'est quoi qui est bon puis c'est quoi qui n'est pas bon? Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est certain qu'on souhaiterait que les équipes, mettons entre guillemets, pauvres, obtiennent une chance demain. Rappelle-toi, Mario Lemieux, comment il a sauvé les Penguins de Pittsburgh.
Mm-hmm.
Et même Sidney Crosby a re-sauvé les Penguins de Pittsburgh. Tu sais, ces joueurs-là, ils sont arrivés d'ailleurs, ils ont été acceptés, accueillis à bras ouverts, que ce soit des Québécois ou des Canadiens, là. Puis ils sont devenus des stars locaux qui ont changé et transformé des équipes. Ils ont sauvé des franchises. Ça, c'est pas négligeable non plus dans l'équation. Fait que finalement, il n'y a pas de bonne réponse. Tout ce que je peux te dire, peu importe où il allait se trouver, il va faire une différence. Mais je pense qu'avec les Rangers, on va avoir plus d'accès à Alexis Lafrenière que jamais.
Dis-moi, dans le cas de Lafrenière, est-ce que la meilleure façon pour se mettre en marché dans une ville comme New York, ça sera ses performances sur la glace plus que sa personnalité et son aura lors des conférences de presse?
Oui, probablement que les performances d'abord, puis ensuite la personnalité, puis l'accessibilité, puis son attitude. Et comment les Rangers vont gérer puis vont l'encadrer. Mais tu sais, avec New York, vient beaucoup de pression, Jérémy. Avec New York, là, tu sais, ceux qui pensent qu'il y a de la pression à Montréal, là, j'ai des nouvelles pour vous, là, à New York. Oh, il y a 12 équipes professionnelles. C'est pas juste des équipes de hockey, entre autres, là, donc ça rend la chose compliquée. Les Rangers demeurent une équipe assez encadrée, supportée, soutenue à New York, là, pour une équipe de hockey. C'est une équipe importante, là. Au même niveau, là, tu sais, que les Giants ou que les Yankees. Les Rangers font partie. Les New-Yorkais aiment le hockey à fond. Pour avoir vu des dizaines de matchs au Madison Square Garden, ils sont passionnés. Mais avec ça vient la critique. Avec ça vient la présence médiatique. Fait qu'il va avoir de la pression sur Alexis Lafrenière. Fait qu'il a besoin, lui, de rester modeste et humble. Il a besoin d'être souriant. Il a besoin de jouer un peu comme Sidney Crosby, demeurer un modèle pour les jeunes. C'est important, ça, dans son attitude en 2020. Il va falloir qu'il soit très prudent avec les médias sociaux. Puis il va falloir qu'il s'exprime le mieux qu'il peut en anglais à chaque fois, comme il est capable. Et d'avoir confiance, puis les choses vont bien se dérouler pour lui. Il va être bien encadré. T'sais, c'est vraiment, il est chanceux de se retrouver avec les Rangers de New York.
Clairement. Quand même une grosse job pour un gars de 18 ans, mais bref, laissons-lui la chance d'évoluer dans ce marché de New York. Maintenant, nouvelle aujourd'hui, immense nouvelle. On apprend que le Big Ten, il n'y aura pas de Big Ten dans la NCAA. Le football, il n'y en aura pas à l'automne. C'est gigantesque. Écoute, c'est des gros marchés, des grosses business, ça, la NCAA.
Jérémy, le football universitaire américain, c'est la locomotive du sport populaire. Les Américains de nature sont attachés à leur université pour leur vie, contrairement aux équipes professionnelles. Tu sais, le gars qui grandit à Chicago, qui va étudier à Northwestern, son équipe préférée va toujours être Northwestern. Et un jour, s'il déménage à New York, ça va demeurer Northwestern. Puis s'il déménage en Europe, ça va demeurer Northwestern. Il va faire des contributions financières pour l'Association des anciens. Il va être un Northwestern Wildcat à vie, par exemple. C'est pas comme ça chez les professionnels. Si tu habites à Miami, tu es fan des Dolphins, un jour tu déménages à Seattle pour aller changer d'emploi, tu deviens fan des Seahawks assez rapidement. Pourquoi? Parce que les équipes professionnelles n'attachent pas les gens émotivement comme l'université, ton université. Alors, sachant ça, tu comprends qu'il y a une énorme passion puis une fébrilité autour du sport universitaire américain. Pis on en parle, toi et moi, assez souvent. Mais le football, c'est la locomotive. C'est ça l'engin qui fait bouger tous les autres sports. À part le basketball, qui est très gros avec le March Madness, tous les autres sports dans une institution, puis ça peut être 25 à 30 sports dépendant de la taille de l'école, sont financés par l'équipe de football. Donc, ce que je veux dire par là, Jérémy, c'est littéralement 4-5 milliards de dollars générés, 4-5 milliards de dollars générés par 65 équipes dans 5 conférences. On appelle ça le Power Five. Et aujourd'hui, deux des Power Five, le Big Ten et le Pac-12, ont mis un terme à la saison 2020. Et ça, c'est sous les ordres des présidents des universités. Pas des coachs, parce que les équipes sont effectivement en camp d'entraînement. Ça ne vient pas des directeurs des sports. Ça vient des présidents des institutions qui ont décidé qu'il y avait trop d'inconnus, trop de risques. Et suite à ces deux-là, je m'attends à rien d'autre que les trois autres, le SEC, le ACC, puis le Big 12, qui vont suivre. Ils n'auront pas le choix. De toute façon, ça ne fait pas de sens de jouer au football actuellement aux États-Unis avec des jeunes étudiants athlètes, où on a découvert depuis à peu près 2-3 semaines certaines équipes qui avaient littéralement des dizaines de joueurs qui étaient affectés, qui ont été atteints positivement. Pas malades, mais testés positivement. Et aussi, on a constaté au niveau médical, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, qu'il y a des myocardites qui se développent chez des jeunes en particulier qui ont passé au travers le COVID-19, mais que les conséquences, le résidu, ça peut être une maladie cardiaque. Donc, les présidents des institutions, Jérémy, ne veulent absolument pas la responsabilité d'un décès sur le terrain de football à cause de lésions causées par le COVID-19. Donc, on cancelle. Et qu'est-ce qu'on fait? On tente de remettre au printemps 2021. Donc, ce qui est prudent, est loin d'être sûr. Par
tu faisais référence à une inflammation là, de la paroi du cœur, c'est ça, une myocardite.
Oui.
Mais tout ça pour dire, et on va terminer là-dessus, je pense que la pression populaire a été immense également. À un moment donné, je voyais sur les réseaux sociaux, tu sais, ne demandez pas à des adolescents ou des jeunes adultes de venir nous divertir en pandémie. À un moment donné, soyons logiques. Je pense que ça, c'est le message qui est rentré dans la tête des présidents de chaque université. Là.
Jérémy, tu l'as très bien dit. Honnêtement, la seule raison pourquoi il y a même un débat, c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent en jeu comme ça, on n'a pas de débat, ça fait longtemps que c'est annulé. Il faut se dire les vraies choses. Là. La seule raison pourquoi on a persisté à chercher des solutions, écoute, il y a une solution qui venait de James Franklin, le coach de Penn State, hier, qui a déclaré littéralement, on devrait faire des Big Ten Weekend dans les trois dômes, dans la conférence, à Indianapolis, à Détroit, puis à Minnesota, à Minneapolis, puis littéralement faire 5 matchs de Big Ten dans le dôme, sans spectateurs, comme c'est le cas au basketball ou au hockey, avec une bulle, puis là, on joue notre saison comme ça. La différence, c'est que ce sont des jeunes athlètes amateurs. Et même s'il y a un sentiment de professionnalisme, ces gars-là ne sont pas payés autre chose qu'une bourse d'études et le logement. Deuxièmement, ils sont jeunes. Et ils songent à leur carrière dans la NFL un jour aussi. Fait que, évidemment que ces jeunes-là ne sont pas intéressés non plus à prendre trop de risques.
Exact, exact.
Faut oublier les émotions attachées à la passion derrière le football universitaire, parce que Dieu sait que je suis un fan de football universitaire de la NCAA, et penser à la santé et sécurité des athlètes. Je félicite les présidents des universités qui ont eu le courage d'y aller.
C'est une très, très bonne décision. Puis laissons les pros, là, ils sont capables de nous distraire. Puis les jeunes... Là,
ils ont les moyens, Jérémy.
Exactement. Puis les jeunes, bon, ben, on attendra que ça soit plus sécuritaire. Ray Lalonde, c'est toujours un plaisir de te parler. Puis merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Jérémy. Bonne soirée à toi.